Vous vous souvenez de ce petit bracelet? Vous vous rappelez ce qui était là il y a, je sais plus, 15 jours? Je sais plus, il y a quelques semaines, hein, avec Céline Kernal, qui a reçu vraiment du Seigneur d'aller distribuer ces bracelets dans la rue, en particulier aux jeunes, pour leur rappeler combien ils sont précieux, parce qu'elle était touchée par le fait que les tentatives de suicide, hein, le suicide, ça touche en particulier les jeunes. Et nous avons rappelé à cette occasion combien effectivement nous sommes précieux les uns les autres, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Nous sommes tous précieux. Nous sommes tous précieux là où l'esprit de ce monde, les forces qui règnent dans ce monde, les forces spirituelles en particulier qui règnent dans ce monde, veulent, elles, nous maintenir en esclavage, veulent nous écraser, veulent nous lier. Il y a tant de choses qu'on peut vivre dans nos vies comme ça, où parfois on peut se sentir comme emprisonné. On a l'impression qu'on ne va pas sortir de la situation dans laquelle on est. Et souvent, dans ces situations-là, bien sûr, ça se manifeste d'une manière matérielle, mais il y a toute une réalité spirituelle derrière. Nous sommes précieux là où l'esprit de ce monde veut, lui, nous réduire, par exemple, à l'état de consommateur, des personnes qui sont que désireuses de posséder, d'avoir toujours plus, comme si dans ce monde, on n'était que matériel. Là où l'esprit de ce monde veut nous faire croire que nous sommes du bétail, des animaux, des numéros. Là où l'esprit de ce monde veut travaille pour que nous ne puissions pas construire dans nos couples, construire dans nos familles, alors que nous sommes faits pour être unis, pour vivre dans l'unité, pour avancer ensemble, unis, parce que nous sommes précieux. Hein? Est-ce que tu crois que tu es précieux ce matin? Amen. Alors c'est bien si tu crois que tu es précieux. Pourquoi nous sommes précieux? Pourquoi nous sommes si précieux? Je pourrais prendre plein de versets, c'est celui-là qui m'est venu. À un moment, Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ou en lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Nous sommes précieux parce que nous sommes faits pour être des habitations de Dieu, des demeures de Dieu. Comme je le disais il y a quelques semaines, nous sommes des temples. C'est ainsi que la parole le dit. Nous sommes des temples. Et un temple, c'est justement, c'est précieux, c'est sacré. Parce qu'un temple, il est là pour accueillir la divinité, le divin. Un temple, ça fait que nous sommes précieux. Paul, lui, le disait de cette manière aux Corinthiens: Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Ça, il le disait à chaque personne de cette église de Corinthe. Tu es un temple de Dieu. Ton corps, mais là, ça veut dire tout ton être, c'est le temple de Dieu. C'est ça que tu fais, qui fait que tu es précieux, que nous sommes chacun précieux, à l'image de Jésus, qui est le temple de Dieu par excellence, comme il le dit par exemple dans Jean 10, au verset 38, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi. Bien sûr, la présence de Dieu ne se limitait pas au temple de Jérusalem. C'est le temple de Jérusalem qui est représenté ici, le deuxième temple. La présence de Dieu ne se limitait pas au temple de Jérusalem. Mais il avait donné ce temple à Israël pour que Israël puisse se souvenir à chaque instant de lui. Et au moment où d'ailleurs le premier temple a été inauguré sous Salomon, il y a tout un moment, quand ils inaugurent le temple, où la présence de Dieu vient remplir le temple. Donc chacun individuellement, nous sommes un temple. Mais la parole dit aussi, et Paul le dit, il dit que l'Église est un temple. À un moment plus tôt, dans cette même épître aux Corinthiens, il leur dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et là, on sait, dans le contexte, qu'il s'adresse à l'Église, à l'Assemblée, à l'Église locale. Ça veut dire que moi, tout seul, je suis un temple. L'Église, la communauté chrétienne, est un temple. L'Église avec un grand E, l'Église qui est répandue sur terre, toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, et c'est Dieu qui sait concrètement ce qu'est cette Église. C'est Dieu qui la voit. Cette Église, c'est le temple de Dieu. Et notre Église, une Église locale, c'est un temple. L'Église de la Chaux-de-Fonds, c'est un temple. Nous sommes un temple de Dieu. Donc autant nous sommes appelés à vivre cette sainteté de Dieu, à chercher cette sainteté de Dieu individuellement, autant nous sommes appelés à la chercher en Église. Et on peut même considérer que si nous le sommes individuellement et que si nous le sommes en Église, les différents étages ou les différents niveaux de notre réalité humaine sont des temples aussi, comme le couple, ceux qui sont en couple. Notre couple, c'est un temple. Notre famille, c'est un temple. Nos différents réseaux relationnels, nos amitiés, mais même nos relations au travail, sont appelés à être des temples, c'est-à-dire à accueillir la présence de Dieu et à cultiver cette présence de Dieu, à rendre un culte, puisque c'est de là que vient culte, ça vient de cultiver, c'est la même racine. À cultiver cette relation à Dieu, à rendre un culte à Dieu. Donc tous les différents étages de notre réalité humaine sont appelés à être des temples. Amen. Ça vous réjouit ? Alors, c'est quoi le temple ? Bien sûr, je l'ai dit, le temple auquel Paul fait référence, et le temple auquel il est fait référence dans toute la Bible, c'est le temple de Jérusalem. Le temple, il commençait d'abord par le parvis des non-juifs, qui ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur de l'enceinte du temple, qui se poursuivait par le parvis ou la cour des femmes. Les parvis, ce sont des cours, des espaces. C'est là, dans ce lieu, qu'avaient lieu toutes les grandes fêtes, les grands événements, avec du coup tout le monde, parce qu'il n'y avait pas que les femmes, il y avait les hommes, il y avait les enfants. Et ça se continuait jusqu'au prochain endroit, par ici, on ne voit pas très bien, mais il y avait 15 marches circulaires qui représentaient les cantiques des degrés, parce qu'il y en a 15 psaumes qu'on appelle les cantiques des degrés ou des montées, où se tenait le cœur des chantres et des musiciens qui chantaient les louanges de Dieu. Et vous voyez, ça, c'est comme tout cet endroit-là, c'est comme finalement notre corps. Vous savez, on l'a dit plusieurs fois, nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Ça, c'est comme notre corps qui est la limite entre notre être intérieur et le monde, qui peut communiquer avec ce monde au travers des cinq sens et qui est le moyen d'action dans ce monde qui est matériel. Notre corps qui est appelé à être un instrument de témoignage. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de notre corps. Et il y a tant de choses, comme des choses que j'ai dites avant, qui voudraient faire en sorte que nous détruisions notre corps. Mais notre corps, il est appelé à être une louange de Dieu. Amen. Et puis après, ça se poursuivait alors par ce qu'on appelle le parvis des prêtres. Enfin, d'abord, le parvis des prêtres ou la cour d'Israël. Ça commençait par le parvis des hommes, c'est-à-dire que les dames ne pouvaient, et les enfants ne pouvaient pas rentrer au-delà. C'était les hommes, et puis au-delà, c'était les prêtres. Et dans cet endroit, il y avait l'autel du sacrifice. Donc sur cet endroit, on amenait les animaux, des animaux qui étaient sans défaut, qu'on avait d'abord vérifiés. On avait vérifié qu'ils étaient sans défaut dans une piscine, ce qui s'appelait la piscine de Bethesda. Et donc on amenait les animaux. Et là, donc, ils étaient égorgés, on recueillait leur sang, et les restes de l'animal étaient brûlés. Dans ce lieu aussi, il y avait la cuve d'airain, une cuve où il y avait de l'eau, et avec cette eau, les prêtres se lavaient les mains et les pieds avant de pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle la maison du temple, je vais en parler après, et lavaient aussi les mains et les pieds des visiteurs. Cet endroit, c'est comme notre âme. Notre âme, c'est tout le lieu de nos désirs, nos émotions, notre intelligence humaine et toute notre volonté. Et cette volonté, elle est appelée à être, entre guillemets, sacrifiée. C'est-à-dire à s'aligner selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il sait tout. Dieu, il voit tout. Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent. Il peut tout. Mais nous, nous sommes limités, nous ne savons pas tout. La pensée de Dieu, elle est éloignée de notre pensée. Elle dépasse notre pensée tellement. Et finalement, se sacrifier, c'est pour ça que je parle du lieu de notre âme. Notre âme, elle est appelée à se soumettre à Dieu, plutôt que de chercher à régner par elle-même. Quand nous cherchons orgueilleusement à conduire nos vies, c'est notre âme qui est aux commandes. Notre âme dont les pensées et les émotions, elles ont besoin d'être renouvelées ou purifiées par la parole de Dieu qui est représentée par l'eau. L'eau, c'est un symbole de la parole de Dieu dans la Bible. Et quand je prends le temps dans la parole de Dieu, dans la Bible, quand je médite sur ces versets, sur ces passages, quand j'essaye d'aller chercher la pensée de Dieu, pour ma vie, parce que la parole de Dieu, elle parle personnellement aussi. Là, mes pensées, elles sont renouvelées selon la pensée de Dieu. Comment est-ce que Dieu, il pense? Comment est-ce qu'il aime? Comment est-ce qu'il il est dans les relations avec les autres? C'est comme ça que je dois être. C'est comme ça que je suis appelé à être. Et on va plus loin dans ce qu'on appelle la maison du temple. On va aller à l'intérieur. La maison du temple, vous voyez, qui est formatée, et qui commençait par le lieu saint. Le lieu saint avec, ici, la table des pains de présentation, c'était 12 pains qui représentaient les tribus d'Israël, sur lesquels on mettait de l'encens, et du coup, il y avait un parfum qui se répandait. Et il y avait aussi le chandelier ou la menorah en or. Il y avait aussi l'autel des encens ou autel des parfums, un autel d'or, sur lequel on venait mettre les restes, justement, des animaux sacrifiés, et on mettait dessus des aromates et de l'huile, et ça répandait un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Et au-delà du voile, le lieu saint était séparé du lieu très saint par un voile, et dedans, il y avait l'arche du témoignage, ou l'arche de l'Alliance, qui aussi représente la présence de Dieu. Une fois par an, le souverain sacrificateur venait avec les restes de sacrifices. Il déposait cela sur l'autel des encens. On mettait de ce qu'il fallait pour que ça répande un parfum. Et ensuite, il venait avec le sang des animaux pour demander pardon à Dieu pour sa vie, sa famille et aussi pour le peuple d'Israël. Et ça, une fois par an. Et vous voyez, je disais au début, les non-juifs qui ne pouvaient pas aller plus loin, les femmes qui ne pouvaient pas aller plus loin, les hommes, etc., les prêtres, jusqu'au souverain sacrificateur. Vous voyez que ça se réduit de plus en plus, ça fait comme un entonnoir. Ça dit le sacré de la présence de Dieu aussi. Que Dieu, il est saint. On n'y accède pas comme ça, n'importe comment. Ça dit aussi tout le respect que l'on doit à Dieu. Et ce lieu-là, c'est comme notre esprit. Notre esprit qui est un lieu de vie, de nourriture pour le reste de notre être, l'âme et le corps, et au-delà, pour tous les autres. Notre esprit qui est un lieu de lumière, symbolisé par ce chandelier, parce que l'esprit, il est là pour éclairer notre marche, que nous soyons illuminés que ce ne soit pas nos propres pensées qui dirigent notre vie, mais vraiment la pensée de Dieu. Mais ça, c'est possible à partir du moment où le lieu très saint, il est habité de cette arche du témoignage, où il est habité de cette présence de Dieu, où le lieu saint, il est relié au lieu très saint. Le lieu très saint, c'est l'endroit du Saint-Esprit. Et quand on accueille Jésus dans notre vie, ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu vient vivre dans notre esprit. Nous sommes précieux. Nous sommes des temples. Et c'est cela que nous sommes appelés à faire, à chercher la présence de Dieu. Comme ça, ce trajet-là, comme le trajet du souverain sacrificateur. À chercher la présence de Dieu, à chercher l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre couple, dans notre famille, dans notre église, avant cela dans nos différents réseaux relationnels, mais dans notre église, tous ces lieux-là de notre vie, ils sont appelés à être des temples. Comment est-ce que Dieu souhaite que je me comporte avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, avec les différentes personnes que je croise dans ma vie? Et ce qui est formidable avec Jésus, c'est que quand Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. Et à partir de là, à partir du moment où l'Esprit de Dieu, on accueille Jésus dans nos vies, et on n'a jamais fini d'accueillir Jésus dans nos vies, on n'a jamais fini de lui donner le plus de place possible. Quand cela qui se passe, l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et comme le voile est déchiré, l'Esprit se propage dans nos vies. L'Esprit peut se propager parce que l'accès, vous voyez, il est libre. Et l'Esprit, il se propage dans nos âmes. Il vient guérir, il vient restaurer, il vient renouveler les pensées. C'est plus nous qui... Mais il y a une rencontre, on va vers Dieu et Dieu vient vers nous. C'est ça qui se passe. Et ça ne repose pas de renouveler nos pensées, ça ne repose pas sur nous, non, ça repose sur l'Esprit de Dieu. Et ça vient aussi renouveler nos corps. C'est comme cela qu'il y a des guérisons physiques aussi qui peuvent se passer. Et ça vient même aussi renouveler toutes nos relations. Et c'est comme ça qu'on peut aussi comprendre notamment cette parole. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est parce que je cultive la présence de Dieu, par exemple dans la louange, quand j'élève son nom, que là je peux voir des choses qui se passent dans mon âme, dans mon corps, dans mes circonstances, dans toutes mes relations. Pitchen, tu serais d'accord de me rejoindre? Bien. Un exemple. Donc, je vous présente Pitchen, qui, rappelle-moi ta nationalité.
Je suis congolais.
Qui est congolais, avec son épouse Angela. Hein, ils sont dans notre église depuis quelques mois. Hein, et vous êtes venu à la Chaux-de-Fonds pour une raison particulière?
Non.
Non, c'était pour chercher du travail.
Oui, pour chercher du travail. Ouais.
Okay. Pitchen cherchait du travail et ça faisait des années aussi que tu cherchais
ouais,
du travail.
Oui, ça faisait des ans. Ouais. Mm-hmm. Ouais.
Et ils sont arrivés à Zurich, voilà, ils cherchaient du travail. Tu étais dans quel métier?
Un chauffeur de camion, chauffeur poids lourd.
Chauffeur poids lourd. Et le problème, c'est que quand il est arrivé en Suisse, Pitchen, on lui a dit « Ah, bah monsieur, vous n'avez pas le diplôme suisse pour rouler sur les routes suisses. » Donc, ce n'est pas possible. Donc, il a fallu que Pitchen passe plein d'examens.
Oui, oui, oui. Ouais.
Et puis, finalement, ce n'était toujours pas possible parce que...
Parce que je ne parlais pas bien l'allemand, il fallait que je parle le suisse-allemand, il me compliquait de partout.
Et parce que aussi, on jugeait que tu n'avais pas suffisamment d'expérience.
Ouais, ouais, j'en avais pas d'expérience ici.
Voilà. Donc voilà, c'est. Alors, hein, vous voyez? Et puis, donc, quand on s'est rencontrés, donc tu es venu chercher du travail, ça faisait plusieurs mois que tu cherchais. Et quand on s'est rencontrés, donc on a prié ensemble.
Oui.
Et on a prié pour que le Seigneur il puisse ouvrir les portes
oui.
pour que tu trouves du travail.
Oui, c'est juste.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, le Seigneur m'a béni et puis je ne pouvais pas les retenir. C'est pour cela que j'ai parlé avec le pasteur Nicolas que je devais témoigner la grandeur du Seigneur. Il m'a béni, il m'a donné ce que mon cœur désirait. Il m'a donné ça à 100%.
Merci, Pitchen. Donc, vous voyez là un exemple de quand on place, on élève le nom de Dieu, comment Dieu il agit dans nos circonstances. Je vous ai donné l'exemple de Pitchen. Il y avait aussi l'exemple d'une autre sœur qui cherchait du travail, avec qui on a prié. Et puis, quelques jours après, effectivement, elle en a trouvé un. Voilà. Mais c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ne croyez pas que c'est par hasard. Ne croyons pas que c'est par hasard, mais c'est vraiment le Seigneur qui agit. Parce qu'il veille sur nos vies. Il agit dans nos circonstances parce que nous cherchons sa présence, nous cherchons son esprit, nous cherchons son royaume. Est-ce que ce matin, est-ce que nous voulons vivre cette réalité de l'esprit? Est-ce que tu veux vivre vraiment cette présence de Dieu dans ta vie? Le mettre à la première place, le chercher chaque jour, tout en étant sous plein de circonstances qui peuvent être difficiles dans ton âme, dans ton corps, parce que nos âmes souvent peuvent être le lieu de tension aussi, nos corps, nos relations, est-ce qu'on veut laisser tout cela à Dieu pour le voir agir dedans? Amen. Alors on va le vivre ce matin. Amen. Parce que le Seigneur Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit, enfin Dieu s'expérimente. Et c'est ce qu'on va vivre ce matin. Vous avez envie de le vivre? Ah, merde, ouais. Donc ce qu'on va faire, on va suivre différentes étapes comme ça. Enfin, je vais vous dire chaque étape. Et on va se laisser conduire et on va voir comment Dieu il va agir. On se place dans la confiance. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire. Et voilà, on s'attend à lui. D'accord? Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est que nous allons prier. Nous allons prier, nous allons élever le nom de Dieu dans nos prières, nous allons le louer pour qui il est et nous allons être dans la repentance. C'est-à-dire de dire que voilà, nous nous détournons de nos mauvaises voies et nous tournons vers ses voies, lui. Nous cherchons sa pensée qui sait mieux que nous. Nous lui demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons tendance à chercher les choses par nous-mêmes en le mettant de côté. Et nous nous réorientons vers lui. Donc on va prendre ce temps de prière et ensuite on va prendre un temps de silence. On va prendre un temps de silence où là on va accueillir ce que Dieu il veut faire. On va lui demander, qu'est-ce que Seigneur tu veux faire? Peut-être il y a des personnes qui ont besoin de guérison physique. Peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui allons ressentir des choses dans nos corps ou qui allons recevoir quelque chose, une pensée ou une image. Dieu donne une direction et il va dire ce qu'il veut faire. Peut-être il va dire, tiens, telle personne a mal à tel endroit. Vous êtes des temples. Nous sommes des temples. Donc nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit a à cœur de se manifester. Ce n'est pas que nous forçons les choses, nous nous mettons dans la disposition de le vivre. Après, il se passe ce qui se passe. Mais c'est nous plaçons sous la souveraineté du Seigneur. Donc voilà, nous allons recevoir ces pensées. Ça s'appelle, dans la parole de Dieu, dans la Bible, ça s'appelle les paroles prophétiques ou des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. C'est ainsi que l'Esprit, notamment, s'exprime, pas seulement, mais c'est ce qu'on appelle aussi les dons spirituels. Et l'Esprit de Dieu, il s'exprime au travers de ces dons. Un moment, Ritz a parlé avec des mots bizarres. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça s'appelle le parler en langue. C'est une manière aussi dont l'esprit s'exprime. Voilà, donc on va, dans ce temps de silence, accueillir tout cela. Et ensuite, on va voir si les sujets de prière qu'il pourrait y avoir, et on va continuer. On priera, d'accord? Alors qu'on puisse maintenant rentrer dans un moment de prière, de louange et de repentance.